Europe 1, 15h-16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Quand la cause est mauvaise, il n'est pas de bons avocats. Avec coutume de dire Ninon de l'Enclos, femme de lettres au XVIIe. Eh bien, elle se trompait, Ninon. Quand la cause est mauvaise, il est de grands avocats. Je reçois Hervé Temim, avocat pénaliste de stature et de réputation internationale, qui a notamment assuré la défense de Bernard Tapie, de Roman Polanski, de Jacques Servier, du BS ou encore de Thierry Herzog dans l'affaire Bismuth. Hervé Temim fait paraître chez Gallimard Secret Défense, un essai passionnant sur l'hystérisation de la transparence et le déclin du secret dans nos sociétés.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue Hervé Temim.
Bonjour.
Alors, notaire, psychiatre, avocat sont de magnifiques postes d'observation de la nature humaine, mais vous précisez, avocat c'est un état d'esprit.
Alors, je crois, oui. Ouais. Je crois que les qualités d'un bon avocat sont d'abord des qualités de caractère liées à sa personnalité. C'est totalement état d'esprit. On ne se sent pas arrêté d'être avocat quand on quitte son bureau ou quand on quitte la salle d'audience. Moi, c'est quelque chose qui me colle à la peau. C'est une chance folle, hein, d'avoir choisi un métier par vocation, mais sans savoir évidemment ce qu'il pouvait représenter. Puis ensuite, de trouver que c'est exactement ça. C'est ce qui vous convient le mieux. J'aime défendre.
Vous aimez défendre. Alors, c'est Maître Fleuriot qui disait « Avocat serait le plus beau métier du monde s'il n'y avait pas de clients ». Rappelons que les clients sont parfois des victimes, parfois des coupables. Or, vous confiez « Je défends mieux les gens pour qui j'ai de la sympathie ».
Oui, il y a quelque chose de totalement irrationnel dans, dans la façon d'exercer son métier. On essaye à chaque fois de donner le meilleur de soi-même, mais il y a des choses qui peuvent vous stimuler, d'autres qui peuvent vous inhiber. Et le fait d'avoir de la sympathie pour des gens, de la compassion ou de la compréhension pour la situation dans laquelle ils se sont retrouvés et qui fait en sorte que vous les défendez, bien sûr que ça peut vous aider. De la même manière, ça peut aussi vous angoisser d'autant plus que d'aimer des gens ou d'avoir une proximité avec les personnes que vous défendez. J'en parle à propos de Thierry Herzog, par exemple. C'est sûr que défendre un ami n'est pas quelque chose d'anodin, mais il faut être capable de prendre suffisamment de distance et d'avoir le recul nécessaire. C'est quelque chose qui est quand même un sérieux stimulant.
Alors, le secret et la vérité sont au cœur de votre métier d'avocat, mais comment révéler la vérité sans trahir, puisque, comme l'écrivait Malraux, la vérité d'un homme est d'abord ce qu'il cache. Alors, entre le secret et la vérité, il y a parfois des choix à faire.
Il y a bien sûr des choix à faire, mais sur un plan personnel, il y a des choix à faire. L'avocat, lui, n'en a pas de choix à faire. L'avocat, il est tenu au secret. Souvent, les gens considèrent que, parce que ce sont des notions assez compliquées, que celles du secret professionnel, par exemple, ou de la déontologie de l'avocat. Les gens peuvent imaginer, le public peut imaginer que le secret est un privilège de l'avocat, et pas du tout. C'est un devoir pour lui, c'est une obligation.
Contrairement aux États-Unis, et on l'évoquera tout à l'heure.
On l'évoquera tout à l'heure peut-être, mais en tout cas, contrairement aux États-Unis. Donc, si vous voulez, un avocat qui apprend, un avocat en France, qui apprend quelque chose de son client, doit le garder pour lui. L'avocat n'est pas au service de la vérité.
Alors, je reviens à ce nouveau livre. Dans votre essai intitulé « Secret défense », qui paraît donc chez Gallimard, vous déplorez, Hervé Temim, vous qui, par devoir et par nature, avez le goût du secret, vous déplorez que, justement, il disparaisse totalement de nos sociétés qui sont dans l'hystérisation de la transparence, donc dans l'hystérisation du jugement. En fait, le XXIe siècle déteste le concept du secret.
Ah oui, je ne suis pas du tout malheureux dans mon époque, hein, bien au contraire, mais oui, l'époque actuelle déteste le concept du secret, parce que bien au-delà de ce que vous indiquez qui est le plus important, probablement l'hystérisation dont vous parlez, et puis une espèce de frénésie du jugement immédiat...
Avec le
tribunal médiatique. Il y a aussi la disparition du secret, du goût du secret, de la valeur du secret dans nos vies. Une espèce, moi je suis absolument saisi, je ne suis pas du tout, j'espère, un vieux ringard, réac, totalement hostile à toutes les avancées techniques, bien sûr comme technologiques. Mais je trouve ça fantastique quand même d'imaginer que des gens se réveillent le matin et postent sur Instagram ou je ne sais quel réseau une photo d'eux-mêmes en train de boire leur lait de soja en faisant lever de la victoire et en mangeant du pain sans gluten.
C'est quelque chose changer qui... la face du monde.
Je trouve ça impensable. Moi, je trouve que c'est merveilleux que personne ne sache où on est, que personne ne sache ce qu'on fait.
Oui, mais ça découle peut-être, vous savez, de ce que disait Warhol, le quart d'heure de célébrité.
Écoutez, que des centaines de millions de gens aient au même moment un quart d'heure de célébrité, ça me paraît compliqué. Non, je pense que c'est comme ça. Bon.
Alors, vous écrivez dans ce nouveau livre, le grand programme d'aujourd'hui, eh ben voilà, c'est que personne n'a plus de secret pour personne, car le secret est suspect. Le secret est suspect, même le secret professionnel. Mais alors, je voudrais savoir comment on a fait ce constat. Tout le monde aujourd'hui veut s'exposer, mais vous l'expliquez comment cette tendance actuelle à la haine du secret ? Ça vient de quoi ?
Alors, vous voyez, je suis moins intégriste que certains me le disent, j'irai pas aussi loin que vous. Je ne parle pas de haine du secret, mais plutôt...
C'est Modiano
c'est Modiano qui en parle. Moi, je pense qu'il y a un mépris du secret, une indifférence au secret. Le secret ne compte pas. C'est peut-être lié aussi à une évolution de certaines technologies. Moi, par exemple, je suis addict au téléphone, hein, je vais pas, et addict au texto, etc. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous transfèrent ou vous montrent des textos qu'ils ont reçus ? Sur un terrain privé. Est-ce que vous imaginez que vous auriez fait une copie d'une correspondance privée pour l'envoyer à un ami ou une amie ? Moi, les gens qui font ça avec moi, par exemple, si quelqu'un me transfère un texto privé, ben, il peut être sûr qu'il n'en recevra pas de moi si ce n'est pour dire « Bonjour, comment vas-tu ? » Quel est l'intérêt ? Je trouve que le charme de l'existence...
Oui, là, on est presque dans la délation.
Oui, on est en tout cas dans l'irrespect de l'intimité. Et d'ailleurs, on arrive à une telle perversion des choses. Aujourd'hui, le secret est tellement peu respecté que moi, par exemple, qui suis évidemment pervers, puisque je suis avocat, quand je veux qu'une chose soit révélée, je la dis en secret à quelqu'un dont je connais le grand sens du secret.
Vous connaissez la fameuse phrase de Guitry, hein, un secret, c'est quelque chose qu'on révèle à une personne à la fois. C'est magnifique.
Exactement. Magnifique.
Alors, Hervé Temim, vous êtes donc, vous que la presse a baptisé l'avocat des puissants, une véritable urne à secret. Dans le monde entier, il y a des hommes de pouvoir dont vous êtes le gardien des secrets les plus fous. Vous vous sentez libre ?
Alors, je me sens très libre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une part de fantasme ou d'exagération dans ce qu'on peut imaginer. Il ne faut pas considérer quand même que j'ai en moi de quoi faire sauter la planète. Non, c'est pas... Et la deuxième raison, c'est que je me sens naturellement libre. J'ai jamais eu de patron, jamais eu de maître, jamais eu de père des admirations, et j'en ai encore. Et je suis profondément libre. Et la lourdeur des secrets que je détiens, les plus lourds ne sont pas nécessairement des secrets professionnels. Hein, peut-être des secrets. Ça n'est pas quelque chose qui altère ma liberté. Ce qui altère, ça complique, ou ça a pu compliquer mon existence, mais ça n'altère pas ma liberté, parce que, si vous voulez, le fait d'avoir le choix entre trahir un secret ou ne pas le trahir, pour moi, ce n'est pas une option. Un secret, ça ne se trahit pas. Donc, ce n'est pas une atteinte à ma liberté que de devoir le conserver.
C'est en compagnie du plus puissant avocat pénaliste de France qu'on chemine cet après-midi. Restez sur Europe 1, vous y êtes bien. À tout de suite, on fait une pause très très courte.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Alors, Hervé Temim, vous avez grandi sous le poids, j'imagine, d'un sentiment d'injustice, vous, devenu avocat, puisque vous aviez 10 ans seulement quand votre père est mort, emporté par un cancer. Pourtant, vous écrivez dans ce livre « J'avais conscience que la mort de mon père était à la fois une souffrance et une chance. » Une chance.
Oui, j'ai eu cette chance extraordinaire de penser ça tout de suite, au moment même où j'ai compris qu'il était mort.
L'avoir pensé tout de suite vous a sauvé du désespoir.
Oui, j'ai été... D'ailleurs, je le reste, je suis quelqu'un profondément gay, j'adore la vie, je suis heureux de vivre, avec très probablement un sentiment de désespoir profond ancré en lui, comme tant de gens. Mais ce qui rend finalement la vie assez légère pour moi.
Mais pourquoi ce sentiment de chance soudain ?
Parce que d'abord, j'aimais tellement mon père que j'étais d'une profonde tristesse pour lui, avec un sentiment d'injustice profond pour lui, qui était très jeune en plus. Mais je n'aurais jamais échangé mon destin contre aucun autre. Et par ailleurs, j'ai su que ça me donnerait une force terrible, et ça a été le cas. Et aussi celle, tout en ayant une image très forte de son père, de ne pas avoir de modèle
de
à dépasser,
référent.
De référent
masculin.
Voilà. Mais si vous voulez, en fait, après, j'ai eu la chance incommensurable. Mais vraiment incommensurable, d'être élevé par une mère et une grand-mère exceptionnelles et qui m'ont donné un amour délirant.
Voilà, vous dites avoir été aimé au-delà de la raison.
très au-delà. Forme,
ouais, très au-delà de la raison, par deux femmes, donc votre grand-mère et votre mère, qui vous regardaient, vous, le fils unique, comme une sorte de récompense suprême, l'enfant roi qui, peut-être, les vengeait de tous les malheurs.
Oui, en tout cas pour ma grand-mère. Pas ma mère, ma grand-mère, oui. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, elle était assez folle pour l'exprimer. Avec une gaieté, une... Enfin, c'était un personnage...
Et l'exprimer devant vous, donc.
Oui, devant moi. Pas devant tout le monde, mais devant moi.
Oui.
Mais si vous voulez, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été entre le rire et les larmes. C'est-à-dire que même cette grand-mère, qui est un personnage... Si j'avais vraiment du talent, j'écrirais un livre sur ma grand-mère.
Oui.
Ah oui, je pense que c'est un personnage exceptionnel. La mère de Romain Gary est une femme qu'il faudrait poursuivre pour mauvais traitement à enfants à côté de ma grand-mère. Hein. Non, ma grand-mère était une personne vraiment phénoménale qui pensait avoir eu un petit fils d'exception. Bref, c'est pour ça que si vous voulez, quoi que je puisse faire dans la vie, et maintenant je n'ai pas grand chance de pouvoir faire beaucoup mieux, mais quoi que j'aurais pu faire, même si je découvrais le vaccin contre le coronavirus, je me considérais comme un nain à côté de ma grand-mère. C'est quelqu'un pour qui j'ai une affection immense, une admiration sans borne et qui m'a porté.
Qui vous a porté.
Qui m'a porté.
Mais alors, puisque justement vous avez évoqué la mère de Romain Gary, bon, il savait de quoi il parlait, Romain Gary, quand il écrivait avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Alors, Hervé Thémime, quand on est aimé... au-delà de la raison, finalement, quel amour, quel engagement attend-on ensuite d'une femme ?
Alors, je vais vous dire, j'adore Romain Gary, j'ai toujours adoré Romain Gary, et le personnage aussi. Et la suite est phénoménale de cette phrase, cette citation si magnifique. Après, on mange froid. Bon, moi, j'ai eu la chance de manger chaud. Et si vous voulez, non, j'ai d'abord, si vous voulez, vous savez, le rapport le plus troublant que j'ai eu, c'était surtout avec ma grand-mère. Donc, c'était probablement pour un homme beaucoup moins inhibant ou beaucoup moins handicapant. Que ma mère était extrêmement jeune et c'est peut-être plus tard qu'elle s'est un peu muée dans le rôle de sa propre mère. Mais écoutez, j'ai très, très bien vécu cela. J'aurais pu être complètement bousillé, d'ailleurs devenir un délinquant, parce que ma grand-mère aurait estimé, par exemple, que c'était le mieux que ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais faire. Bon, je plaisante, mais non, parce que j'ai jamais confondu l'amour maternel, surtout l'amour d'une grand-mère, avec l'amour d'une femme. Et puis, si vous voulez, j'ai au moins un grand avantage, c'est que j'ai pas besoin d'être materné. Et donc, et puis, si vous voulez, quand peut-être que ce que je vais dire est très prétentieux, mais quand vous avez reçu tant d'amour, vous savez à quoi ça ressemble, et vous êtes peut-être capable d'en donner.
Alors, votre vocation pour le métier d'avocat, elle est née très très tôt, vers l'âge de 12-13 ans. Il paraît que vous avez une théorie sur les grands avocats qui, comme vous, ont perdu leur père très jeune au cours de l'enfance. Robert Badinter, Éric Dupond-Moretti, Georges Kijman. Il y a un fil comme ça, funeste, qui les relie.
Oui, on m'a prêté une théorie, c'est beaucoup dire, parce qu'évidemment, tous les grands avocats de l'histoire et actuels, grandes avocates...
N'avaient pas forcément perdu jeune leur père,
Mais j'ai fait cette constatation. Ça m'a même fait faire une confusion extraordinaire, parce qu'au fond, j'étais tellement convaincu de ça, après l'avoir constaté. Je l'ai constaté quand j'ai lu le premier papier qui avait été consacré à Dupond-Moretti, ça doit faire une dizaine d'années. Je me suis dit, tiens, c'est pas possible. En plus, une relation très forte avec sa grand-mère aussi.
Ouais.
Tiens, mais zut, alors ça, c'est... Et ça m'a fait faire une confusion. Mon idole, c'était Émile Pollack, un avocat marseillais extraordinaire. Et quand Durand Soufflant, qui est un journaliste, un chroniqueur, un grand chroniqueur judiciaire, qui a écrit le premier bouquin de Dupond-Moretti, a écrit ce bouquin avec lui, il m'a appelé. Il m'a dit, dites-moi Hervé, Émile Pollack, il était bien orphelin. Et j'ai dit, bien sûr, il était orphelin. Évidemment.
Bien sûr,
il était orphelin. Et en fait, Dupond-Moretti m'a envoyé un courrier qu'il a reçu d'un lecteur. Non seulement il n'était pas orphelin... Et en plus, son père assistait aux audiences auxquelles il venait. Et je connaissais tout ça. Et je l'avais oublié. Je connais par cœur la vie d'Émile Pollack. J'avais fait une espèce, moi-même, une espèce de... Vous ne pouvez pas avoir été Émile Pollack en ayant un père.
On réécrit son ADN, on refaçonne les choses.
Je ne vois pas un père à Georges Kijman ou à Badinter. Je suis probablement un peu, quand même, abîmé partout. Très légèrement.
Mais alors, votre père, Hervé Thémime, il était médecin.
Oui.
Bon, vous, vers 12-13 ans, vous voulez devenir avocat. Soigner, défendre, finalement, ça revient au même ?
Pour moi, c'est la même chose. C'est évidemment des métiers dont la technique est très différente, mais c'est porter secours à des gens à un moment de leur vie où ils en ont besoin.
Oui, mais votre père, il avait des patients, vous avez des clients. Le mot est tout de même plus mercantile.
Ah, c'est vrai. D'ailleurs, D'ailleurs, vous savez, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Moi, j'ai tendance un peu à mythifier les médecins et à considérer qu'il y a une forme de noblesse qui n'existe pas toujours chez nous. Oui, il y a une forme de mercantilisme dans le métier que j'exerce. Il ne faut pas se cacher du fait qu'effectivement, nous avons des clients qui nous payent des honoraires. Mais est-ce que vous savez que les plus beaux combats qui ont été menés par les avocats ou les plus beaux combats qu'on mène, c'est généralement sans argent ?
Voilà, comme Badinter, par exemple.
Tout sur la peine de... Il y avait une espèce de règle non écrite chez les avocats qui fait que quand la peine de mort était encourue, on ne prenait pas d'honoraires. Moi, je peux vous dire que je ne me cache pas, je n'ai pas honte d'avoir des affaires dans lesquelles on prend des honoraires extrêmement importants. Mais les affaires qui nous mobilisent le plus sont des affaires où on n'a pas d'honoraires du tout.
Juste avant de faire une pause, Hervé Temim, votre vocation, elle est née en 1970. La peine de mort existait toujours, puisqu'elle a été abolie en 81. Donc à cette époque-là, les ados qui, comme vous, rêvaient de devenir avocats, le voulaient sans doute pour d'autres raisons que celles des ados qui veulent aujourd'hui, en 2020, devenir avocats.
En tout cas, vous avez raison. En tout cas, moi, c'est clair que ce qui me passionnait, ce qui me fascinait, non seulement de défendre, mais c'était de sauver des têtes. Oui, oui, absolument.
Au propre et au figuré.
Contre la peine de mort. Au propre et au figuré. C'était ça. Et j'étais, hein, je suis devenu intarissable sur tous les procès. J'ai lu tous les livres d'avocats. Je les connaissais pratiquement par cœur. Je ne sais pas pourquoi, je me suis fasciné pour ça. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une figure tutélaire qui m'a absolument fasciné, que je n'ai jamais entendu plaider, hein, qui est Émile Polak, dont j'ai eu la chance de connaître la fille, puis ensuite,
mais alors comment,
correspondre avec le petit-fils qui est bâtonnier de Marseille.
A-t-il pu être un modèle, puisque jamais vous ne l'avez entendu
plaider ?
Alors
d'abord, écoutez, je l'ai entendu à la radio. Et moi, j'ai une passion pour la radio. J'écoute un nombre de podcasts inimaginables.
Ouais.
Et la voix d'Émile Polak, son phrasé, son accent, sa sensibilité, j'ai suivi son parcours, son caractère. C'était un type, c'était un saltimbanque absolu. C'était un type qui rentrait dans aucune case, qui était un turfiste invétéré, qui avait une phobie de l'avion, qui parcourait la France en voiture... sa gueule.
C'était le Cyrano du droit.
Sa gueule, pour moi, c'était Polak, quoi. Et d'ailleurs, c'était un avocat éblouissant.
On fait une pause très courte, on trouve tout de suite Hervé Temim.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Hervé Temim, avec l'abolition le 18 septembre 1981 de la peine de mort, c'est toute la nature des procès d'assises qui a changé. Et vous qui avez prêté serment en 79, vous écrivez justement dans ce livre « Le métier avait donc perdu cet éclat lié à une question de vie ou de mort. Je ne connaîtrai pas la grandeur d'épargner la mort à un condamné, mais je ne subirai pas l'horreur de l'accompagner donc jusqu'à la guillotine sans avoir pu lui sauver la vie. » Les avocats qui ont assisté à des exécutions en ont été changés à jamais.
Ah oui. J'ai connu notamment deux avocats qui s'appelaient Philippe Lemaire et Thierry Lévy, qui étaient de très grands pénalistes, qui ne sont plus là, qui ont connu cette expérience, notamment d'ailleurs dans l'affaire Buffet-Bontemps où Badinter était là. Et il est clair que c'est quelque chose qui les a marqués à jamais. Il y avait une gravité, une espèce de... Oui, de grandeur aussi attachée au métier, qui est inégalable. Mais il faut s'en réjouir.
Il faut s'en réjouir,
voilà,
bien sûr.
Je m'en suis réjoui au combien.
Mais bien
c'était
sûr.
Mon rêve, mais c'était aussi un soulagement extraordinaire et une joie extraordinaire que l'abolition de la peine de mort.
Et en même temps, et ça c'est absolument atroce à constater, mais c'est factuel, le spectacle qu'est un procès aux assises... À ce moment-là, lorsqu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, eh bien, il a perdu cet attrait funeste qui faisait, j'ai envie de dire, délicieusement trembler les foules, frissonner les foules.
Oui, parce que en plus, Badinter, qui a quand même été un avocat hors norme, lui, on peut le dire carrément, et ce garde des sceaux qu'on connaît, non seulement il a aboli la peine de mort, ce qui, en quelque sorte, revenait surtout au président Mitterrand, mais il n'a pas mis en place une peine de remplacement. C'est-à-dire qu'on passait de la réclusion à perpétuité, qui à l'époque, était, il n'y avait pas de peine de sûreté, mais enfin, c'était jamais moins de 18 ans, c'était autour de ça, effectué. On passait de la réclusion à perpétuité à 20 ans de réclusion. Il n'y avait pas de peine de 25 ans, 30 ans, il n'y avait pas de peine incompressible. Donc ça veut dire que dans les affaires les plus graves, quand la culpabilité n'était pas contestée, il n'y avait plus d'enjeu pénal. Et pour vous dire la vérité, ce désintérêt pour la cour d'assises, il n'a désintérêt médiatique. Il n'a pas été immédiat, mais il a été progressif. parce qu'en plus, vers la fin des années 80, donc un peu moins de 10 ans après, il y a eu l'émergence des affaires politico-financières. La justice a commencé à s'intéresser aux puissants.
Qui soudain ont eu plus d'éclat.
Voilà,
on va dire, dans la presse.
Dans la presse. Voilà. Si bien que, j'en parle surtout pour ça, que des avocats extraordinaires, ils n'ont pas eu l'aura médiatique qu'ils auraient probablement eu dans un autre contexte ou qu'ils méritaient. Par exemple, je pense que, quelles que soient ses qualités, qui étaient immenses en tant qu'avocat de Dupond-Moretti, Dupond-Moretti n'aurait pas eu sa notoriété dans les années 85-90. Non, c'est pas par hasard qu'il a fallu attendre à peu près une vingtaine d'années pour qu'un avocat d'assises, dans la plus grande tradition des avocats d'assises du passé, ait la médiatisation qu'a eu Éric Dupond-Moretti.
Alors, je continue de dérouler le fil de votre histoire. Vous n'avez jamais eu de patron. Vous nous avez dit que vous avez eu un modèle avec Maître Polac, mais jamais vous n'avez eu un patron. Vous avez prêté serment en 79, vous avez remporté le concours d'éloquence, vous êtes installé dans un petit appartement près de la gare Versailles-Chantier, vous avez accroché votre plaque d'avocat, et puis vous avez commencé avec ce qu'on va appeler le tout venant, défendre les auteurs de petits larcins. Mais vous dites, on ne m'a jamais rien transmis, rien. Personne. J'avais des modèles, mais on ne m'a jamais rien transmis.
D'abord, j'ai fonctionné comme ça. Vous savez, je pense que quand on perd son père, à l'âge où je l'ai perdu, qui était un âge clé, parce que 10 ans, fils aîné, pas facile. Il y a probablement deux solutions. Soit on cherche un substitut paternel, soit on le rejette.
Oui.
Et moi, j'en ai pas voulu.
Et vous n'avez même pas voulu de patron de stage. C'est ça, surtout.
Alors, il faut être plus tout à fait honnête. Vous savez, je connaissais personne. Je voulais m'inscrire au barreau de Paris, je rêvais du palais de justice de Paris. Il faut jamais oublier d'où on vient. Moi, je regarde encore avec des étoiles dans les yeux le palais de justice, je parle du vieux palais de justice de Paris. Quoi. Et je connaissais pas d'avocat qui, à Paris, aurait pu m'engager. J'osais pas, aujourd'hui, on reçoit des demandes par mail, j'osais pas envoyer un courrier à un avocat que je connaissais pas. Et surtout, à Paris, en première année, on n'avait pas de commission d'office. Et moi, je voulais croquer la pomme tout de suite. J'habitais Versailles. À Versailles, on en avait des commissions d'office au départ. Et puis, j'ai pu avoir là une domiciliation quasi fictive, un contrat de collaboration au dossier, mais il n'y a jamais eu de dossier. Et donc, mettre ma plaque chez moi.
Et c'est vraiment sur le terrain des commissions d'office qu'on apprend le métier.
Ah oui, oui, bien sûr. C'est une école extraordinaire. Il n'y a pas de meilleure école, par exemple, pour un pénaliste que les flagrants délits. Vous savez, si je traite aujourd'hui certains dossiers très médiatiques, dans des affaires très techniques ou financières, je crois que les qualités majeures que je peux avoir, ne parlons pas des défauts, elles sont issues de là. Elles sont issues de la culture d'avocat pénaliste que j'ai. Alors bon, je sais compter, j'espère savoir à peu près raisonner.
Attendez, vous êtes très fort avec les calculs en arithmétique. Je sais que c'est votre passion, vous êtes à la fois littéraire et amateur. On parlera d'ailleurs tout à l'heure du sens des cartes, du poker, de tout ça.
Non, j'aime les chiffres, oui, c'est vrai. J'aime les chiffres et j'aime compter.
Ouais. Donc, en tout cas, vous avez commencé à aller tôt le matin dans les parloirs,
voir
des gens qui, en fait, ne savaient même pas qu'on allait leur donner un avocat pour les défendre, qui étaient mutiques, qui étaient...
Vous savez, quand on a commencé, je dis « on » parce que ces débuts, c'est un tout petit peu plus tard que Versailles, c'est à Paris, ces débuts sont très associés à deux amis qui sont Thierry Herzog, que je vais défendre, et Pierre Haï, qui est un avocat merveilleux, qui malheureusement est malade et qui ne peut plus exercer, mais qui est très associé à mes souvenirs. Le Graal, c'était de recevoir une ou des lettres de désignation de prison, c'est-à-dire de détenus qu'on ne connaissait pas, qui nous demandaient de les défendre. Et on ne se rendait même pas compte à l'époque. En fait, on en était super heureux. C'est ça, on attendait ça tous les jours, on en avait tous les jours, plus ou pas. Et on ne se rendait pas compte, en fait, de la chance qu'il pouvait avoir d'avoir des avocats, certes jeunes, mais pleins d'enthousiasme, qui étaient prêts à tout pour les défendre, généralement sans argent, avec très peu d'argent. C'était ça, il y avait une espèce de joie, d'excitation, de bonheur et d'angoisse à faire ce métier, mais de surinvestissement. Les années 80 ont été des années très, très, très fortes dans le barreau pénal. On était toute une génération critiquée à son époque, mais qui aujourd'hui tient encore un peu le haut du pavé, ce qui n'est pas normal. Non, ce qui n'est pas normal, parce qu'on est trop vieux, non pas pour exercer, non mais on aurait dû être beaucoup plus bousculé par des gens beaucoup plus jeunes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les générations d'avocats et d'avocates, parce que c'est l'époque des avocates...
Où les femmes émergent.
Oui, il était temps. Et génération d'avocats jusqu'à 35, 40 ans, c'est là où est l'avenir du barreau. Les générations 40, 60, moi j'ai 63 et 42 ans de barreau, j'ai commencé tôt. Bon, n'ont pas été bousculés. 40, 60, c'est beaucoup plus faible. 25, 40, c'est là où est tout le vivier du barreau français.
On retrouve tout de suite Hervé Temim. Europe 1. Sa modestie va s'agacer, tant pis. Je reçois l'avocat pénaliste le plus puissant de France, Hervé Temim, qui fait paraître chez Gallimard un essai intitulé « Secret défense ». Alors, Hervé Temim, vous confiez qu'en France, l'avocat exige rarement que son client lui dise la vérité. C'est parce que, au final, avec un bon avocat, bah, la vérité, c'est la version de celui qui gagne.
Alors, c'est d'abord qu'il n'a pas l'obligation de le faire.
Oui, mais...
Un avocat, c'est quelqu'un qui défend un homme, une femme, et qui doit essayer d'obtenir pour lui le meilleur résultat possible, qui n'a pas forcément besoin de la savoir, ce qui peut choquer certains de vos auditeurs, je peux tout à fait le comprendre, et qui doit juger la valeur des arguments qui peuvent être les siens par rapport à un dossier. Il est contre une accusation quand il défend. Ça peut paraître curieux, mais non, on ne demande pas nécessairement la vérité. On s'y intéresse. Et on la demande souvent, mais pas toujours.
Mais pas toujours.
Pas toujours. Parfois, en revanche, on l'exige.
Ah oui?
Oui, parfois on l'exige.
Dans quel
cas? Quand il nous semble que c'est pas possible de s'engager dans une telle argumentation sans être absolument sûr que c'est la vérité. Et les clients qui nous mentent, quand on l'exige, c'est pas tellement à nous qui font un mauvais tour, c'est à eux-mêmes. C'est eux, ils marquent un but contre leur camp.
Mais parfois aussi, connaître la vérité, ça peut être encombrant pour gagner un procès?
Oui, parce que je vais vous dire quelque chose d'assez étonnant qu'on ne peut pas imaginer. Moi, en fait, j'ai commencé en défendant, comment vous dire, des délinquants, quoi, pas que des délinquants habituels, mais des gens qui étaient vraiment parfois des piliers de prison. Et d'une manière très étonnante, ils vous mentent. Ils vous mentent naturellement, mais ce n'est pas gênant. Pourquoi ils vous mentent naturellement? Parce qu'il y a une espèce de fossé social entre eux et nous. Et même si on est un avocat jeune, etc., ils n'osent pas nous dire la vérité. Et puis, il y avait des formules dans les prisons géniales. Quand l'avocat n'est pas cru, le client est cuit. Et pour que l'avocat soit convaincant, il faut d'abord convaincre son avocat. Donc, on commence par lui vendre la sauce qu'on veut
qu'on
raconter au juge.
Qu'on imagine être
absolument
la meilleure.
Et puis, petit à petit, quand j'ai commencé à défendre avocat des puissances, une image que je déteste, mais bon, luttons pas contre ça. C'est déjà, je l'ai écrit, accorder trop d'intérêt à soi-même. Mais bon, peu importe. Quand vous commencez à défendre des gens avec lesquels la distance sociale est inexistante, voire même qui sont plus vieux, plus puissants, plus connus, plus riches, plus tout ce que vous voulez que vous. Mais eux, c'est horrible. Ils ont tendance à considérer que l'avocat est un complice. C'est eux qui nous mettent dans une situation difficile. C'est pas l'assassin. Il n'y a pas un trafiquant de schnouf, comme on disait nous, un trafiquant de drogue, qui va voir son avocat pour dire « Vous savez, maître Temim, là, je compte emporter 3 kilos de cocaïne. Vous pensez que c'est mieux d'aller à Arras ou à Béthune ?»
Ça vous est arrivé
que... Non, ça n'est jamais arrivé. Non, non. Non, en revanche, vous avez des clients que vous défendez et puis on leur reproche un truc et puis ils vous disent il faudrait aussi que je vous dise j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais attendez, mais moi, si je vous défends, j'ai pas besoin de savoir que vous êtes en fait une horrible femme, qu'on vous reproche un fait mais que vous en avez commis 10 000 autres qu'on vous reproche pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr. Alors en Amérique, Hervé Temim, les avocats prêtent serment d'allégeance en fait à la vérité, c'est-à-dire que les avocats doivent absolument y contribuer. Et ça peut renverser des procès de façon surprenante. Ainsi, si Dominique Strauss-Kahn a obtenu un non-lieu dans l'affaire du Sofitel de New York où la femme de chambre, Nafissatou Diallo, affirmait qu'il l'avait violée, c'est parce que le propre avocat de la victime est allé dévoiler au procureur que sa cliente avait menti sur d'autres déclarations. Sinon, Strauss-Kahn serait resté en prison.
Ah ça, je dis pas ça.
Peut-être,
en tout cas, ce qui est certain...
En tout cas, l'avocat de la...
Absolument.
La victime va trouver le procureur en lui disant « ma cliente ment ».
D'autant plus que cet avocat n'était pas n'importe quel avocat, c'était un avocat Kenneth Thompson qui menait une croisade médiatique contre Dominique Strauss-Kahn d'une violence inouïe, dont on a appris, il est malheureusement décédé depuis, mais dont on a appris d'ailleurs qu'elle était liée à une carrière politique qu'il entamait à New York. En fait, c'est rare qu'en Amérique, contrairement à ce qu'on imagine, que les avocats soient aussi omniprésents médiatiquement qu'ils l'étaient.
Donc ça a été un cas de conscience terrible alors pour l'avocat de Nafissatou Diallo d'aller voir le procureur il luttait personnellement contre Strauss-Kahn.
Mais attendez, oui, il était dans une espèce de position tellement agressive contre Strauss-Kahn que... Il a estimé qu'il était obligé, mais il était obligé par ses règles déontologiques, si vous voulez, c'est même pas pire qu'un cas de conscience, il est allé dire au procureur, c'est incroyable, il est allé dire au procureur, ben voilà, il faut que je vous dise, ma cliente a menti. Et en fait, elle n'avait pas menti sur un point de détail. Elle avait fait une déposition en présence de l'adjointe du procureur, qui était là quand Kenneth Thompson a révélé ce mensonge, où elle avait mimé une scène d'agression sexuelle dont elle aurait été victime dans le passé, dans son pays, en montrant les zones où elle avait été, où elle aurait été frappée, avec des crises de larmes, des sanglots, etc. Et d'après ce qu'on a su, et la substitut du procureur qui avait assisté à ça est tombée par terre.
Donc c'était une vraie tragédienne.
Et donc ça a entaché considérablement la crédibilité de la plaignante, de Nafissatou Diallo. Mais enfin, vous imaginez, là c'est, comment vous dire, c'est la contribution à la vérité de l'avocat qui va au point que l'avocat d'une victime supposée va jusqu'à devoir dénoncer des mensonges de sa cliente pour des faits distincts de ceux pour lesquels elle a porté plainte. C'est très particulier.
En France,
un avocat qui serait dans cette situation pourrait avoir un cas de conscience, mais en aucun cas, il n'aurait la possibilité, ni même le droit d'aller révéler ça au procureur. Il pourrait inciter sa cliente à dire la vérité. Mais en aucun cas, un procureur n'aurait le droit, il trahirait et son secret et sa cliente, il n'aurait pas le droit.
Mais alors, Hervé Temim, au final, entre la France et l'Amérique, quel est le système le plus juste? Puisque en France, un avocat ne dénonce pas son client, alors qu'aux États-Unis, il peut le faire.
Alors, écoutez, c'est très difficile de répondre à votre question rapidement, mais moi, les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Je préfère le système français avec tous ses défauts, de loin.
Ah oui.
Je préfère le système français avec tous ses défauts. Ou plus exactement, je préfère 100 fois le métier d'avocat français que d'avocat américain. Si j'avais su à quel point, et je dis ça en souriant mais je suis sérieux, si j'avais su à quel point la France était probablement le plus grand pays au monde sur le terrain de la culture de la défense, croyez-moi, j'aurais mené une carrière tout autre. J'étais fasciné par les grands procès américains, fasciné par les grands avocats américains, fasciné par le monde judiciaire américain. Je ne savais pas ce qu'il recouvrait exactement. Et ça a été une des grandes déceptions de ma vie. Je ne pense pas tellement mieux de la façon dont les gens sont défendus en Angleterre. Le système français est un système très critiquable. Les avocats français méritent évidemment aussi de l'être critiqués. Mais c'est le pays du monde, peut-être avec l'Italie, que je connais, où la culture de la défense est la plus grande.
Alors, dans ce métier d'avocat, il y a un point très important, c'est la lecture des dossiers. Parfois, soudain, un détail, une pépite qui peut renverser un procès. Ainsi, dans l'affaire Maurice Agnellet, accusé d'avoir assassiné sa maîtresse, l'héritière donc du casino Roule à Nice, dont on n'avait pas retrouvé le corps, n'est-ce pas? Vous étiez l'avocat de la famille. Eh bien, soudain, dans ce dossier, un jour, comme ça, vous lisez une phrase extraite des Justes d'Albert Camus, que donc l'accusé avait tapé sur son ordinateur, une phrase qui vous a mis la puce à l'oreille, cette phrase c'était « J'ai choisi d'être innocent ». Alors on est carrément dans un thriller.
Comme vous le dites très très bien, c'est vrai que la prise de connaissance des dossiers, la lecture, l'étude des dossiers, c'est un moment capital. Et il y a des choses beaucoup plus importantes dans le dossier que ça, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant.
C'était un indice.
C'est-à-dire que il y avait une perquisition.
Sur la nature du personnage.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a une perquisition qui a été faite très tardivement, qui était sans lien avec les preuves du dossier, au domicile de M. Agnellet. Et c'était un type qui était vraiment, d'ailleurs, assez cultivé, très littéraire. Et qui,
avocat aussi.
Et qui avait accumulé un nombre de lectures, de citations. Enfin, il y avait des centaines de pages. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à lire ça, qui en fait avait relativement peu d'intérêt par rapport au rôle qui était le mien. Et j'ai trouvé cette citation, et j'ai choisi de terminer la plaidoirie du deuxième procès, le premier pour moi, où j'ai défendu la famille Leroux, par cette phrase, parce que c'était tellement révélateur dans mon esprit de ce qu'il était.
De la composition d'un personnage,
absolument.
En fait.
Et la phrase, d'ailleurs, elle est exceptionnelle. J'ai choisi d'être innocent, c'est formidable.
N'est-ce pas? Alors. On doit faire une petite pause, mais bien sûr, la plaidoirie, ça reste un moment essentiel, parce que vous dites, en fait, c'est terrible, on parle à des gens qui ne vous répondent pas.
Absolument.
Donc, déjà, c'est particulier. Est-ce que vous partagez le sentiment d'Henri Leclerc qui disait « En fait, on ne plaide jamais que pour soi ».
Complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'à travers le fait qu'on plaide évidemment pour d'autres, et on plaide des dossiers et des hommes, on ne plaide jamais que pour soi, dans le sens où il y a peu d'exercices dans l'existence qui sont aussi personnels qu'une plaidoirie, même si vous plaidez pour un autre. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'être profondément impressionné par des plaidoiries. Et je crois que c'est l'exercice le plus passionnant sur le plan de l'oralité que je connaisse. Ça laisse aucune trace.
Ah oui.
Ça n'est souvent, les plus grandes ne sont pas écrites. Mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant.
Mais la trace, c'est la vie de l'homme qui sort
oui.
libre.
Alors en même temps, je vous parle là de l'exercice, il ne faut pas être dupe. Je ne dis pas que des plaidoiries sont forcément les moments majeurs ou qui font basculer tous les procès, certainement pas. Mais pour moi, ça reste quelque chose d'extraordinaire et je crois de très important. Parce que je crois... Et je croirais toujours, sinon d'ailleurs, même pas seulement que je ferais plus ce métier, je m'arrêterais de vivre, je crois à la communication, je crois au pouvoir des mots et au pouvoir de la conviction. Donc oui, on plaide que pour soi parce qu'on donne tout ce qu'on est. Et deux, un homme, une femme différent ne plaide pas identiquement le même dossier.
On retrouve tout de suite Hervé Temim.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Hervé Temim, vous dites... La justice a quelque chose de terrifiant, elle est aléatoire.
Terrible. C'est une loterie. Vous pouvez...
Et c'est vous qui le dites.
C'est moi qui le dis, bien sûr. Vous pouvez, en fonction des magistrats devant lesquels vous tombez, les avocats aussi qui vous défendent, être confronté à des décisions complètement différentes, dans des situations comparables, voire même identiques. Évidemment, il y a une part d'aléa très grand dans la justice. Alors, en même temps, il y a des principes dans notre justice qui confortent cet aléa, mais qu'il faut protéger, comme par exemple celui de la personnalisation des peines, car on est dans un système où les peines ne sont pas fixes. Les magistrats ou les cours d'assises ont un pouvoir, bien sûr, pour des mêmes faits. Par exemple, vous pouvez aller d'une courte peine de prison avec sursis jusqu'à la réclusion à perpétuité. Pour les mêmes faits.
Pour les mêmes faits.
Bien sûr. C'est
suis épouvanté par ce que vous dites.
C'est théorique, mais c'est vrai. Bien sûr, c'est notre système français. C'est sa grandeur. Vous savez, il n'y a rien de pire que les peines automatiques. Hein. L'une des raisons pour lesquelles on est très opposé aux peines planchers, les avocats, nous-mêmes, ce n'est pas tellement par rapport à une position plus laxiste ou plus répressive. C'est parce qu'il faut pouvoir... juger en fonction de la situation de l'homme ou de la femme qui est condamné pour les faits qu'elle a commis. Vous savez, c'est très facile, devant des micros ou au café du commerce, de commenter une affaire et de dire que ça mérite telle ou telle peine d'être acharné. Quand vous suivez un procès, quand vous avez toutes les données humaines, de contexte, bah vous avez parfois un sentiment complètement différent de celui que vous avez en lisant le journal.
Alors, dans Secret Défense, Hervé Temim, vous écrivez « Je peux plaisanter de tout, de la maladie, de la mort, jamais de la prison ».
C'est vrai. D'abord parce que je suis terriblement superstitieux. Écoutez, je crois que je ne vous dis pas que je mourrai avec un plaisir absolu, mais ni que je serais ravi qu'on m'annonce une maladie incurable, mais vraiment... Je ne souhaite la prison à personne et c'est quelque chose qui, pour moi, serait probablement une...
Faire de la prison vous tuerait.
Enfin, ça serait terrible pour moi. De la même manière que probablement parce que j'ai été élevé avec un grand sens de l'intégrité, que je respecte infiniment mon métier, j'aurais beaucoup de mal à être confronté à la justice. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si j'ai défendu autant d'avocats et si je comprends, et à quel point je le comprends, la difficulté qu'il peut y avoir pour un avocat de comparaître devant des juges.
La justice est aléatoire. Or, vous avez une passion pour les jeux de hasard. Votre père était un champion de bridge et vous avez le sens des cartes. Mais il s'agit d'un hasard calculé, infusé par les mathématiques. Alors, gagner au poker, c'est conjurer le sort ?
Ah, d'abord, vous savez que dans le... J'ai été à un moment un peu joueur, je ne le suis plus. Et c'est vraiment le joueur, c'est le mythe de Sisyphe. Hein. C'est lui qui veut qu'on joue le sort.
Ouais.
Le bridge, c'est pas un jeu de hasard. Et d'ailleurs, j'étais pas du tout un grand joueur de bridge. J'ai beaucoup moins le sens des cartes que mon père ou mon fils. Parce que j'ai un fils qui porte le même prénom que mon père.
Et qui est un grand champion.
Ah oui, enfin, en tout cas, oui, un champion. Et en tout cas, c'est génial dans tous les jeux, depuis qu'il est tout petit. Il ne supporte pas de perdre, et d'ailleurs, il perd rarement. Bref, et je n'ai rien fait pour le décourager de faire ce métier, alors qu'il n'y a plus rassurant pour un père. Mais non, moi, oui, j'aime bien, j'adore jouer. Mais vous savez, j'aime jouer aux cartes avec des amis. Je le fais pas beaucoup, mais j'adore ça. Je suis pas génialement bon, je suis pas nul. J'ai le sens des cartes et j'aime jouer dans la vie. Mon métier n'est pas du tout un jeu. J'en plaisante pas
sûr,
du tout.
Bien sûr, c'est
mais,
ce que
mais j'aime jouer.
Vous demander.
J'aime jouer, j'aime sûr. Rigoler, j'aime rire, j'aime. J'aime jouer. Oui, j'avoue que c'est peut-être une façon aussi de tromper son angoisse. J'adore. Et puis alors, je vais vous dire. Il y a un truc qui n'a rien à voir avec ce que je décris pas. J'ai connu des gens qui étaient joueurs. J'en connais. Ils ont généralement quelque chose d'assez formidable. C'est qu'ils ont un rapport très, très, très distancié avec l'argent.
Oui.
C'est des gens toujours généreux.
Oui.
Bon vivant. Moi, je le décris d'ailleurs. Il y a une catégorie que je supporte pas. Il y a deux catégories que je supporte pas. C'est les gens pas drôles et
Les radins.
Ah oui. Les gens qui se prennent au sérieux et les radins, alors ça, croyez-moi, ça me fait mourir de rire. Mais voilà, il y a ça aussi, vous savez, il y a une sorte de... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'est pas étranger, qui est un peu atavique, mais que j'aime bien. Maintenant, mon métier a toujours été tellement important pour moi que même à l'époque où j'avais tendance à jouer, je n'ai jamais joué en semaine, jamais joué à Paris, jamais... Ça n'a jamais... pris la moindre
oui, altéré,
place,
quoi
non,
que ce soit.
Pas du tout.
Mais
non,
en fait,
ça peut être une addiction. Hein.
Ce sont des soupapes, il faut des échappatoires.
Ah ben j'en ai beaucoup, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Non, mais notre métier, parce que parlons pas de la vie privée, le métier est un métier tellement envahissant. Moi, vous savez, par exemple, c'est un métier qui a fini par m'envahir tellement que je crois que je peux pas vivre autrement que seul, même si je suis très très lié dans ma vie personnel et
mais
amoureuse.
Mais vous vivez seul.
Mais si vous voulez, c'est un métier qui m'envahit complètement. Je l'admets, c'est-à-dire
qui vous vampirise.
Qui me vampirise. Mais attendez, j'en suis pas malheureux. C'est pas quelque chose qui m'empêche de jouir des plaisirs de la vie, d'être heureux. J'ai du temps pour moi. Mais c'est quelque chose. Mais par moment, oui, par moment, c'est un métier qui en quelque sorte qui m'impose de m'isoler. Parce que je suis dans une sorte de bulle, voilà. Mais c'est génial. Moi, si vous voulez, un des plaisirs, je vous avais pensé que je mérite une longue psychanalyse, mais un des plaisirs, je ne pourrais pas vivre sans angoisse. Il y a des angoisses négatives, angoisses positives.
Passionnant cet aveu-là. Je ne pourrais pas vivre sans angoisse.
Je ne pourrais pas vivre sans angoisse. Et d'ailleurs, je m'aperçois que quand j'ai aucune raison d'en avoir, je manquerai de fictive. Vous savez, on dit tous les pénalistes, on ne peut pas être avocat pénaliste sans être névrosé. Alors, il ne faut pas l'être trop, mais bon. Et donc, comment vous dire, c'est un métier qui vous passionne, voilà, c'est tout. Et c'est génial, moi je souhaite à tout le monde d'avoir comme métier une passion. C'est ça le vrai luxe dans la vie.
On retrouve tout de suite Hervé Thémines.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Hervé Thémines. Un avocat peut faire un bon président de la République si on songe à François Mitterrand, à Bill Clinton, à Nicolas Sarkozy, à Barack Obama.
Ouais.
Un avocat peut-il faire un bon acteur? Je vous pose la question parce que je crois savoir que dans le prochain film d'Yvan Attal, inspiré du livre de Karine Thuil, Les choses humaines, vous jouerez un avocat?
Alors, oui, je joue un avocat, mais je joue un avocat en fonction... moi, je ne suis pas du tout un acteur... Je pense qu'un avocat pourrait faire un bon acteur, oui. Mais comme n'importe qui pourrait faire un bon acteur. Non, il y a des liens entre les métiers d'artiste et le métier d'avocat. Dans un précédent livre, j'ai fait un chapitre sur justement rond de cuir ou saltimbanque, parce qu'on est à la limite. Et on est souvent des artistes ratés. Mais si je reste sur ce strict plan de l'acteur, il y a déjà une grande différence, c'est qu'un avocat... C'est-à-dire, c'est un compositeur-interprète. Il chante, une chanson qu'il a écrite.
Voilà.
Donc, il y a déjà cette différence, si vous voulez. Et puis, un avocat n'est pas du tout un acteur au sens où certains peuvent l'imaginer. Les effets de manche, les poses, les trucs, c'est complètement démodé, si d'ailleurs ça a vraiment été si présent que ça. Et donc, je pense que là, vous citiez Henri Leclerc, et c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleur connaisseur du métier. Je l'ai entendu, moi, quand j'étais très jeune, me dire, plutôt dire à la volée, et j'ai retenu ça, la plaidoirie, c'est l'art du naturel. Et c'est vrai.
Hervé Temim,
ouais.
On vous aurait proposé d'être ministre de la Justice. Vous auriez accepté?
Écoutez, tous les gens qui disent qu'ils n'auraient pas accepté, c'est des gens à qui, comme moi, on n'a rien proposé. je ne sais pas si j'aurais accepté, je ne sais pas si je me serais considéré en avoir aujourd'hui les capacités ou le bon positionnement, mais ce que je peux vous dire, c'est que je comprends qu'Éric Dupond-Moretti ait accepté. Pourquoi? Parce qu'il est un avocat de ma génération, même si je suis un peu plus vieux que lui. Et dans notre génération, le Graal, c'était Robert Badinter. Donc l'avocat qui fait une carrière d'avocat exceptionnelle et qui devient garde des Sceaux. Donc c'est une consécration et aussi la possibilité de contribuer à une amélioration, à un changement de la justice. Donc il faudrait pouvoir être accepté. Voilà. Moi, vous l'avez dit, j'ai cette étiquette épouvantable d'avocat des puissants. Est-ce que vous imaginez un ministre de la Justice être l'avocat des puissants? J'aurais été encore, je pense, bien plus critiqué, même si beaucoup moins connu qu'Éric.
Alors, à la fin de ce livre intitulé « Secret défense » qui paraît chez Gallimard, vous confiez que vous auriez aimé défendre Christine Villemain dans l'affaire Grégory.
Ah oui? Alors, vous savez, j'aurais adoré la défendre parce que j'ai vu la série, la mini-série qui vient d'être consacrée à l'affaire Grégory, qui est d'ailleurs une série formidable, de qualité. Je dois dire que j'avais oublié par quoi elle est passée. J'avais oublié par quoi elle était passée. J'avais pas oublié le sublime, forcément sublime, de Marguerite Duras, mais... J'avais oublié qu'elle avait été accusée d'avoir assassiné son fils. Mmh. Et quand j'ai revu cette série, j'ai vu les images de Christine Villemain à l'enterrement de son fils. Mais je me suis dit, mais comment humainement un truc pareil est-il possible? Comment on peut survivre à ça? Comment? Et je sais qu'en plus le couple, enfin je sais d'après ce que j'ai lu, je ne les connais pas. Franchement, j'ai une espèce d'admiration incroyable pour la manière dont ils ont réussi à surmonter tout ça. Et je trouve que c'est monstrueux ce qui leur a été fait. Cette affaire est monstrueuse. Et d'ailleurs, elle démontre, si vous me permettez, que toutes les dérives qu'on dénonce aujourd'hui ne sont pas seulement liées aux réseaux sociaux et à l'époque qu'on
vit.
Bien
sûr, il n'y avait pas Internet à l'époque.
Un des pires dysfonctionnements de la machine judiciaire et médiatique, et médiatico-judiciaire, c'est peut-être l'affaire Villemain, qui date d'il y a pratiquement 4 décennies. Non, c'est... Ah oui, je dois dire que... Bon, elle est magnifiquement défendue, elle l'a été. Hein. C'est pas du tout par rapport à ça, mais c'est... Ah ouais, je dois dire que j'ai été saisi. Vous voyez, là, vous m'en parlez, je revois les images de Christine Villemain aux obsèques de son fils, et quelque temps après, un juge qui va l'inculper. Ah ! Ça me paraît être monstrueux, oui.
Votre essai est passionnant. Il vient de paraître chez Gallimard. Il a pour titre « Secret défense ». Je vous remercie infiniment, maître Temim, parce que je ne vous ai pas encore appelé maître
depuis une heure. C'est pas la peine. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.